Freddy Ethan, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Freddy Ethan, vous êtes ancien diplomate israélien. On va revenir avec vous sur plusieurs points de l'actualité la plus récente, notamment après cette attaque israélienne attribuée à Israël, soyons précis, concernant le QG des gardiens de la révolution islamique à Damas. On entend beaucoup de choses en provenance de Téhéran. À quoi doit-on s'attendre de la part de l'Iran après l'élimination de ces hauts responsables des gardiens de la révolution islamique qui se trouvaient à Damas en Syrie?
Écoutez, nous prenons, je crois, d'une façon très sérieuse les menaces des dirigeants iraniens parce que c'est pour la première fois, ils sont beaucoup plus déterminés qu'avant. Et c'est pour ça que ce soir, Israël vit dans un état d'alerte au maximum, surtout sur le plan aérien, sur la défense aérienne. Et donc, l'Iran pourrait éventuellement riposter sur plusieurs plans. On ne sait pas exactement comment. Mais les options sont telles qu'il est possible que pour la première fois dans l'histoire du conflit avec l'Iran, l'Iran pourrait, je dis bien pourrait, lancer des missiles balistiques vers Israël. Cela est pris au sérieux aussi. Évidemment, nous avons les moyens pour nous défendre et déjouer toute tentative de ce genre. Mais il y a aussi d'autres moyens pour l'Iran. L'Iran pourrait envoyer demain des drones, je dirais même kamikazes, bourré d'explosifs, comme elle a essayé d'envoyer par ses proxys, c'est-à-dire par les Houthis au Yémen, vers Eilat, vers d'autres sites. Mais l'Iran, je crois, va essayer par tous les moyens de toucher l'objectif et d'atteindre donc un site stratégique militaire et non pas civil. Et ça, c'est pour la première fois aussi. Le Hezbollah ne souhaite pas tellement de sortir donc ses gangs et essayer de ne pas directement essayer de lancer une opération préventive. Il le fait chaque jour par des tirs de roquettes, par des lancements de missiles et autres. Mais il ne pourra pas pour l'instant, je dis bien pour l'instant, lancer une opération contre Israël, sachant très bien qu'il attend le feu vert de l'Iran. Alors, il y a d'autres moyens pour l'Iran de nous attaquer, c'est aussi à l'étranger. Et c'est pour ça qu'il y a des mesures. Des mesures ont été prises dans le cadre donc d'une situation d'alerte, c'est-à-dire les ambassades sont prévenues, évidemment, et les diplomates. Nous craignons, comme ça s'est passé déjà avec l'Iran, vous le savez, le Hezbollah avait lancer des attentats contre l'ambassade d'Israël en Argentine. Ouais. Et il y a eu aussi contre la communauté juive à Buenos Aires. Donc, toutes ces précautions sont faites pour éviter donc une attaque iranienne contre Israël ou à l'étranger contre des Israéliens.
Alors, autre information, Freddy Ethan, c'est ce qui s'est passé avec ces 7 humanitaires de l'organisation WCK. Une erreur israélienne, erreur de l'armée israélienne qui les a pris pour cible. C'est d'autant plus regrettable et dommageable que, bien évidemment, 7 humanitaires ont perdu la vie inutilement. Et d'autre part, c'est que cette organisation, pour les Israéliens, aurait pu être en passe de remplacer l'UNRWA dans la distribution de l'aide humanitaire. Est-ce que aujourd'hui, l'organisation WCK va continuer son travail ou elle va arrêter de faire cette distribution d'aide alimentaire?
Écoutez, c'était une erreur fatale que nous regrettons d'ailleurs, non seulement le président de l'État Herzog, Netanyahou, les ambassadeurs et évidemment le chef d'état-major ont dit qu'effectivement ce n'était pas délibéré, ce n'est pas évidemment, c'était une erreur et que nous regrettons vivement. Vous avez bien mentionné, parce que c'était une initiative israélienne d'ailleurs, d'amener donc cette ONG. Parce que cette ONG travaille sur le plan apolitique. Mmh. Et à la tête de cette ONG, un Espagnol qui était chef de cuisinier et très fort dans cette... Il a essayé par tous les moyens d'acheminer donc cette aide. Cette aide est aussi aux Israéliens, il faut le dire aussi, c'est-à-dire aux Palestiniens et aux Israéliens. Donc il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de discrimination. Et donc on souhaite que cela se continue, et je crois que ça va continuer puisque nous avons des contacts directs avec eux et ils vont le faire. Nous nous trouvons aussi dans une situation encore plus grave, parce que le contexte aujourd'hui, c'est que la délégation israélienne, comme vous le savez, qui se trouvait au Qatar avec le chef du Mossad, est en Israël, est retournée. Mm-hmm. Le problème, c'est que le Qatar aussi, le premier ministre du Qatar d'ailleurs, a critiqué violemment Netanyahou ce soir, et il a dit qu'il est responsable donc de cette impasse. Mais on sait que la clé, donc, pour sortir de cette impasse, c'est essayer de trouver le moyen, le comment faire, parce que l'exigence principale, donc, du Hamas, c'est concernant les réfugiés qui se trouvent au sud de la bande de Gaza, de les ramener au nord. Il s'agit d'un million, un million et demi. Et Israël ne veut pas, comme ça, laisser faire sans un contrôle important pour savoir si des militants du Hamas et des combattants du Hamas arriveraient donc une nouvelle fois donc au nord de la bande de Gaza. Et c'est là, je crois, la pierre d'achoppement donc dans les négociations qui pourraient éventuellement essayer de retrouver donc une situation que nous allons peut-être une nouvelle fois rentrer dans une impasse et durcir encore plus. Donc après cet attentat, cette attaque donc contre cette ONG, on va renforcer, si vous voulez, les revendications du Hamas.
Alors, Freddy Etan, dans ce contexte, on a évoqué le Nord, la menace iranienne, on a évoqué la bande de Gaza, on pourrait parler aussi de ce qui se passe en Judée-Samarie. D'ailleurs, vous avez vu aujourd'hui, c'est très intéressant, la déclaration du Fatah qui accuse l'Iran d'ingérence dans ses affaires internes, notamment en Judée-Samarie. Ça prouve que tout n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Et en parallèle de toute cette actualité, il y a d'importantes manifestations en Israël depuis 4 jours, avec hier soir un véritable chaos entre les manifestants et les policiers israéliens. Alors les manifestants réclament 2 choses. Ils réclament bien évidemment la libération des otages, ou en tout cas de trouver un accord pour que les otages soient libérés le plus vite possible, et puis demandent des élections anticipées, en sachant que peut-être que le moment n'est pas idéal pour provoquer des élections anticipées. Mais on sent, Freddy Etan, une certaine frustration de la population israélienne. Frustration bien évidemment, de par les otages, et frustration aussi pour savoir qu'est-ce qu'on va faire une fois que la guerre va être terminée. Une réponse à laquelle, d'ailleurs, Benjamin Netanyahou n'apporte aucune, une question d'ailleurs à laquelle Benjamin Netanyahou n'apporte aucune réponse. Que va-t-il se passer le jour d'après ? Les soldats israéliens meurent au front, les otages sont toujours otages, avec des déclarations d'ex-otages qui raconte l'indicible concernant le viol quotidien des femmes, et cette frustration n'a pas de réponse au sein du gouvernement.
Écoutez, tout à l'heure, il y a quelques minutes, Benny Gantz, qui fait partie donc du cabinet, membre du cabinet de guerre, vient de déclarer qu'il souhaiterait, et il a parlé avec Netanyahou et les dirigeants politiques, qu'il souhaite que des élections anticipées se dérouleront donc un an avant la fin de la guerre, c'est-à-dire au mois de septembre prochain. Donc c'est une évolution non seulement au sein de la classe politique, c'est aussi au sein donc des manifestants. Il faut calmer les esprits. Le chef donc du Shin Bet, du Shapak, a déclaré aussi cet après-midi qu'il voit dans ces manifestations une menace qui pourrait déraper vers une guerre civile, parce que les manifestations sont devenues aujourd'hui très violentes. Hier soir, nous avons vu comment à Caesarea, mais aussi à Jérusalem et à Tel Aviv, il y a eu des manifestations monstres, mais cela peut déclencher un affrontement avec la police. Donc il craint effectivement non seulement des dérapages, mais aussi une confrontation entre les policiers et les manifestants. Il faut dire aussi, et ça il faut le quand même être clair, les otages doivent être libérés. C'est une priorité absolue et première. Et Israël fait tout pour le faire. Mais évidemment, il y a aussi des questions politiques. Et les familles des otages, nos chères familles des otages, tombent parfois dans le piège donc de la récupération politique. Et ça, il faut éviter à tout prix. Alors donc, ces manifestations, ne craignent pas, évidemment, ils montrent par là que le pays est divisé, ça va de soi. Il y a un déchirement dans la société israélienne. Mais quand nous sommes dans une guerre, quand nous combattons, quand des soldats tombent chaque jour, il est temps de mettre nos querelles politique au vestiaire, momentanément, jusqu'à la fin de cette guerre. Et les menaces sont omniprésentes. Ils ne sont pas seulement proches des attentats, parce que demain, c'est le dernier vendredi du Ramadan. On risque aussi des attentats. Il y a eu, ce matin, il y a eu une attaque à Kohav Yair, donc pas loin de Kfar Saba. Donc il faut essayer de trouver le moyen de calmer les esprits. Et c'est là que nous lançons un cri d'alarme pour leur dire effectivement nous devons arrêter toute cette, non seulement essayer ces dissensions, ces déchirures de la société israélienne. Et là, si on peut effectivement avoir ce répit, et retourner donc à ce calme et calmer les esprits, nous pouvons d'une part gagner la guerre et effectivement retourner à une campagne électorale pour essayer de retrouver une nouvelle fois un nouveau gouvernement plus stable et plus avec une certaine sagesse pour mener Israël non pas à la guerre, mais à la paix.
Freddy Etan, merci d'avoir été en direct avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes ancien diplomate israélien. Bonsoir.
Bonsoir.